Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors, vous avez vos épées avec vous ce matin? Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va premièrement prier et demander au Seigneur de nous bénir lors de cette prédication. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta présence parmi nous. Seigneur Dieu, ce matin, on veut te donner notre pleine attention, Seigneur Jésus. On veut rendre captives toutes nos pensées, Seigneur. On veut rendre nos pensées captives à ton obéissance, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous accorder l'esprit de révélation dans cette place. Seigneur Dieu, je te prie qu'on puisse sortir de cet endroit, Seigneur, différemment que lorsqu'on est entré. Qu'on puisse partir avec un dépôt dans nos cœurs, avec une révélation de toi, comment tu nous aimes et comment tu as un plan pour nos vies. On a prié au nom de Jésus. Amen. Alors, on va tourner dans le psaume 23, lire au premier verset. Il est écrit, Cantique de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Vous savez, ce texte-là, ce psaume-là, je crois que c'est un des psaumes qui serait le plus populaire parmi tous les psaumes parce que c'est de quoi qu'on lit souvent à plein d'occasions, parfois à des mariages et souvent dans des funérailles. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est très, très populaire comme texte. Et souvent, si vous écoutez des films d'Hollywood, on va toujours entendre réciter soit le Notre Père ou le psaume 23. Mais c'est tellement riche, c'est plus qu'un simple poème. Le psaume 23, c'est vraiment la parole de Dieu pour aujourd'hui. Ça nous parle comment Dieu veut nous guider dans notre vie. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à essayer de découvrir le plan de Dieu pour notre vie ou essayer de trouver le chemin du bonheur. Vous savez, Dieu, Jésus-Christ, se propose d'être notre berger aujourd'hui. Savez-vous ça? Il veut être votre berger pour vous guider au bon port. Et nous, c'est merveilleux, on a reçu le Seigneur Jésus dans nos vies et on peut vous dire que le Seigneur est toujours fidèle pour bien nous guider. Dieu est bon, Dieu aime ses enfants et il y a des bons plans, des plans pour nous bâtir, des plans pour nous guider dans le bonheur et la joie. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va regarder le psaume 23 et on va y aller verset par verset pour vraiment saisir la révélation que Dieu a en réserve pour nous. Dans le premier verset, il est écrit, Cantique de David, « L'Éternel est mon berger ». La première chose qu'on doit saisir ici, c'est qu'on voit l'auteur, on parle de David ici, il décrète son allégeance envers son berger. L'Éternel est mon berger. Et vous savez, avant d'avoir reçu Jésus-Christ dans notre vie, on ne peut pas dire ça. On peut dire que oui, il y a un sauveur, Jésus est un sauveur, mais quand on réalise qui veut être notre Seigneur, le maître de notre vie, celui qui va toujours nous diriger dans nos vies. À ce moment-là, on peut le dire avec foi et dire, l'Éternel est mon berger. Et vous savez, quand on dit ça, l'Éternel est mon berger, on est en train de décréter aux témoins autour de nous et même dans le monde spirituel que notre foi, notre confiance n'est pas en nous-mêmes, mais notre confiance est dans le berger de notre vie. Il est celui qui est là pour nous guider. Et on est en train d'affirmer ça et ça décrète, ça change quelque chose dans le monde spirituel. Saviez-vous ça? Nos paroles vont changer des choses dans le monde spirituel. Moi, je dis, il est mon berger. Comme dans le psaume 91, on peut le lire ensemble. Le psaume 91, verset 2, ça dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voyez-vous, il y a quelque chose de simplement lire un texte, une autre chose de se l'approprier et de décréter et de dire je donne ma foi à ce berger, je crois qu'il va me guider dans le bon port. Et heureusement, ce matin, on a eu le privilège de rencontrer Jésus et dire « Il est mon berger ». Et non seulement n'importe quelle sorte de berger, mais en plus dans Jean 10, 11, ça dit « Je suis », en parlant, c'est Jésus qui parlait, il disait ici « Je suis le bon berger ». Parce qu'il y en a beaucoup de bergers, il y a beaucoup de personnes qui se prétendent comme étant la source du bonheur. Je sais, moi, dans le temps des fêtes, je regardais les pamphlets qui traînaient un petit peu dans les restaurants, dans les magasins, et puis il y avait des invitations pour s'en aller dans des retraites de ressourcement spirituel, et c'était des gourous qui se proposaient comme étant la source du bonheur pour des gens. Et quand je voyais ça, mon cœur était attristé, parce que je voyais qu'il y avait un peuple québécois qui était désintéressé de la religion de la province ici, et puis quand ils ont soif pour quelque chose, ils se tournent soit vers des sectes ou vers des mouvements comme ça, Nouvel Âge, les gourous qui proposent toutes sortes de choses qui sont fausses finalement. Mais aujourd'hui, nous, notre foi n'est pas dans un gourou, notre foi est en Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes vivant aujourd'hui, vous pouvez dire Amen. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen. Il est notre berger. Amen. Et quand une autre chose qui est intéressante ici, là, c'est que quand on réalise vraiment qu'il est notre berger, il est notre Seigneur, on décide dans ce temps-là de suivre uniquement ce que le Seigneur nous dit de faire. Il y a des gens qui disent, moi je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, mais moi, ma vie chrétienne, je vais faire mon propre plan. Je vais me créer un genre de trajet et moi, je vais décider comment je vais marcher dans la vie chrétienne. Et c'est sûr, on peut le faire, mais savez-vous, Dieu, là, son plan est toujours meilleur que le nôtre. Il est toujours meilleur que notre plan. Et quand on saisit puis on dit finalement, OK, c'est à moi, là, je vais faire uniquement ce que toi, tu dis, même si des fois, ça ne semble pas intelligent. Des fois, la raison humaine nous dirait, fais pas une telle affaire. Mais vous savez, même quand nous, mon épouse et moi, quand on a décidé de déménager en Alberta, au début, là, ça ne faisait pas de sens. On était prêts à quitter le Québec sans avoir un salaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à dire, moi, je vais aller déménager sur l'autre coin du pays, pour finalement pas avoir de salaire, mais on a eu un salaire, vous savez l'histoire. Mais au début, on était prêt, on devait être prêt à faire le move, à déménager, même si on ne savait pas au début. Mais Dieu, quand il a vu notre OK, quand le Seigneur a vu, Seigneur, tu es vraiment notre berger, c'est toi la source de notre vie, c'est toi notre Seigneur. Là, le Seigneur a dit, parfait, voilà le salaire qui vient avec. Et Dieu est bon, c'est le bon berger. Et le salaire qu'il nous a donné, c'est un salaire pour qu'on soit béni également. Vous savez, Dieu a toujours des bons plans, mais si on est guidé par notre raison et quand on est guidé par notre opinion humaine, on peut être déçu. Savez-vous ça? Mais Dieu, il veut qu'on puisse le suivre fidèlement. Amen. Une autre chose que le Seigneur veut nous montrer dans ce texte-là, c'est le berger a une provision illimitée pour ses enfants. Il y a une provision illimitée. On lit ça dans le premier et le deuxième texte. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous savez, quand on rencontre le Seigneur Jésus et on a vraiment notre foi, notre confiance en lui, on a la révélation qu'il nous manque vraiment rien. Vous savez, il y a des chrétiens qu'on rencontre et puis ils vont toujours nous parler des choses qu'ils n'ont pas. Mais à quelque part, c'est anormal de parler comme ça. C'est anormal d'être toujours dans le manque. Savez-vous pourquoi ou dans le manquement? C'est anormal parce que le Seigneur a dit, vous ne manquerez de rien. Quand vous êtes relié avec moi, et vous savez, Dieu, là, tout l'or et l'argent lui appartient, tout le ciel, toute la majesté de la planète, ça appartient à Dieu. Alors, quand vous êtes un fils de Dieu, tout ça, ça vous appartient. Vous avez simplement besoin de dire, Seigneur, je suis ton enfant, j'ai un besoin. On présente notre besoin au Seigneur et le Seigneur entreprend toujours pour nos besoins selon sa richesse avec gloire. Alors, il ne nous manque rien. Et si aujourd'hui, vous manque quelque chose, allez vers votre Père et dites-lui, Seigneur, j'ai un besoin. Et Seigneur est fidèle et juste, il va prendre soin de vous. Moi, je peux vous dire, on est témoin de la bonté de Dieu. Dieu ne nous a jamais laissé tomber, jamais, jamais. Il est fidèle. Il y a une provision illimitée. Et vous savez, souvent, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'être humain? On se permet le péché de s'inquiéter. Savez-vous, ça, c'est un péché, l'inquiétude. Des fois, on va le dire, « Ouais, mais je m'inquiète de telle affaire. J'ai peur que j'arriverai pas. Ou j'ai peur pour mon enfant. J'ai toutes sortes d'inquiétudes. J'ai peur de manquer quelque chose. J'ai peur de manquer d'amour. J'ai peur de manquer ci, de manquer ça. » Mais vous savez, des fois, on parle comme ça en tant que croyant. Et on ne réalise même pas qu'on est en train de commettre un péché. L'inquiétude, là, c'est un péché, saviez-vous ça? La crainte, c'est un péché, saviez-vous ça? Avoir peur de ne pas avoir assez, avoir peur de ci, avoir peur de ça, la crainte, c'est un péché. Peut-être une révélation pour vous ce matin. La crainte, là, c'est plus qu'une émotion. On peut avoir le sentiment de la crainte. C'est normal, hein? Si on était sur le bord d'un gratte-ciel et j'étais comme ça, j'aurais peur. J'aurais le sentiment de la crainte. Mais on peut, ça c'est une bonne crainte en passant. Mais il y a une sorte de crainte où on manque confiance en Dieu. Et quand on manque confiance en Dieu, qu'est-ce qui se passe là? C'est qu'on est en train de dire, Seigneur, j'ai pas vraiment confiance que tu es vraiment un bon berger. Moi, je pense que je serais peut-être meilleur à ta place. Je suis mieux de me débrouiller tout seul. Je suis mieux d'essayer de faire ma propre affaire. Mais Dieu nous rappelle aujourd'hui qu'on ne doit pas s'inquiéter. Dans Philippiens 4, versets 6 à 7, je vous invite à tourner dans la parole, dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez-vous, la parole ça nous dit ici, « Ne vous inquiétez de rien. » Et le Seigneur Jésus a dit, « Ne crains pas, ne craignez pas. » Ça revient toujours dans la parole de Dieu qu'on ne doit pas craindre, on ne doit pas s'inquiéter. Parce que si on met notre confiance en Dieu, on sait qu'il va prendre soin de nous. Vous savez, c'est comme quand on laisse notre enfant à une gardienne, on ne devrait pas avoir peur. On a confiance que la gardienne va bien prendre soin de nos enfants. Pareillement, quand on place notre vie entre le bon Dieu, le bon berger, on devrait croire que le bon berger va bien prendre soin de nous. Dieu nous appelle aujourd'hui à renouveler notre foi dans la capacité et dans le cœur de Dieu pour ses enfants. Savez-vous ça? Dieu veut qu'on soit à ce niveau-là dans la confiance. Et dans 1 Pierre 5,7, ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Vous savez, il y avait un temps dans le monde chrétien où les gens n'expérimentaient pas de burn-out, n'expérimentaient pas de dépression. Savez-vous pourquoi? Parce que les gens se déchargeaient sur Dieu, ne vivaient pas le stress d'aujourd'hui. Mais après un bout de temps, je ne sais pas pourquoi, on s'est permis de penser si c'était correct de s'inquiéter. On a dit si c'était correct de gérer nos affaires dans le stress. Et là, on développe des maladies, on est malheureux, on a des dépressions. Mais ça, ce n'est pas le cœur de Dieu pour ses enfants. Dieu dit, n'inquiétez-vous pas, il nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Tout, ça veut dire tout, n'est-ce pas? De tous vos soucis. Amen. Et dans Hébreux 4, 9 à 10, c'est dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. On sait que le salut, c'est par la grâce, par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous, ce n'est pas par les œuvres. Et souvent, on comprend la révélation de la grâce pour le salut, mais une fois qu'on est sauvé, là, tout d'un coup, on commence à marcher sous la loi et on essaie d'accomplir notre vie de victoire, on essaie d'accomplir notre vie des réussites, peu importe, par nos efforts personnels. Mais Dieu aujourd'hui, dans le psaume 23, est en train de nous dire, non, vous ne manquerez de rien si je suis vraiment votre berger. Amen. Et le verset 3, on trouve ça ensemble, la restauration de l'âme. Au verset 3, ça dit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Et il restaure mon âme. Vous savez, notre âme, c'est notre pensée, notre volonté, nos émotions. Et si on peut être béni dans notre vie chrétienne, on doit premièrement commencer là, au niveau de notre âme, notre pensée, notre volonté, nos émotions. Dieu dit ici, là, ben David, il dit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, « Il restaure mon âme. » Le berger restaure mon âme. Tout ce que je pensais qui était erroné, tout ce que j'avais dans ma volonté qui était contraire à Dieu, Dieu vient faire un ménage dans nos cœurs et nous apporte une restauration. Et par la suite, ça dit, là, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous savez, c'est impossible de marcher dans les sentiers de la justice ou les sentiers de la sainteté à moins que notre âme soit restaurée. On peut essayer de marcher et plaire à Dieu. On peut essayer d'être saint, mais ça ne marchera pas comme ça. C'est par l'âme. Il faut que notre âme ait une visitation de la part de Dieu. On a besoin que la main de Dieu vienne faire du ménage dans nos cœurs, apporter une guérison dans ces blessures qui sont là. Ça fait peut-être 10 ans que vous êtes sauvés, peut-être 20 ans, et peut-être qu'il y a encore des choses dans vos cœurs que vous avez protégées, vous n'avez pas permis à l'Esprit de Dieu de venir et de travailler, et d'enlever et d'amener une guérison. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit qu'il veut restaurer vos âmes. Même cette partie de vous, Dieu est intéressé à l'homme au complet, pas simplement le corps physique, mais également notre âme. Amen. Vous savez, Et Dieu va le faire. Puis, qu'est-ce qui est merveilleux? C'est à cause de son nom. Vous savez, des fois, les gens, on va lire ça ensemble, puis on va dire à cause de son nom. Mais pourquoi qu'il dit ça à cause de son nom? Vous savez, à cause de son nom, Dieu a une réputation. Et quand on se proclame devant des gens comme étant des fils et des filles de Dieu, comme étant chrétiens sauvés, bien là, tout d'un coup, on représente Dieu aux gens. Savez-vous, quand vous rencontrez un inconverti sur la rue, quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, et là vous dites, bien, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne, tout d'un coup, vous devenez pour lui le représentant de Dieu. Et là, si vous êtes malheureux, déprimé, brisé, ça se peut, des fois on passe par des temps d'épreuve, mais de vivre notre vie chrétienne comme ça, c'est pas normal. Si on est toujours comme ça, et là les gens vont dire, bien, finalement, sais-tu, ça m'intéresse pas vraiment d'être un enfant de Dieu. Et là, on est en train de ternir la réputation de Dieu. Savez-vous ça? Si le bon Dieu vous cause une vie d'horreur et vous êtes toujours malheureux, c'est anormal. Je vais vous dire, c'est anormal. C'est pas la volonté de Dieu. Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Pour que les chrétiens soient toujours malheureux, c'est anormal. On est supposé être content. On n'a pas été baptisé dans l'eau de vinaigre. Amen. On est supposé être content. Savez-vous, regardez dans Psaume 138, verset 2, et je vous lis dans la version Darby, ça dit « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté. » Vous voyez, Dieu est bon. On le célèbre à cause de sa bonté, à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. Et dans la version Martin, ça dit « Tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. » Voyez-vous, Dieu là veut se manifester comme étant bon dans vos vies à cause d'une réputation, il y a une renommée à protéger. Quand on parle de Dieu, Dieu veut que les gens le perçoivent comme étant bon. C'est pour ça dans la parole, ça dit « publier ses hauts faits ». Publier ses hauts faits, ça veut dire on va se vanter de notre Dieu. On va dire comment Dieu est bon. C'est pour ça que quand on rencontre des chrétiens qui sont remplis de la joie, qui ont eu une restauration dans leur âme, puis on dit comment ça va? Hey, ça va bien. Savais-tu, avant j'étais dépressif, mais Jésus m'a guéri. Savez-vous, avant moi j'étais malade, j'étais handicapé, j'avais telle affaire. Il y a des gens à notre église, ils vont même vous le faire. Ils vont vous montrer une photo d'eux autres avant et après. Il y a Marie-Josée avec nous, elle, ça fait son grand plaisir de vous montrer sa carte d'assurance maladie. Avant, son visage était soufflé comme ça, à cause, elle avait tellement de médicaments dans son corps, et maintenant, son visage, vous allez voir, a diminué. Hein. Dieu est à l'œuvre, Dieu est encore vivant, et Dieu veut qu'on puisse faire cette publicité et dire comment il est bon et comment il est grand. Et on doit cesser d'assassiner le caractère de Dieu et dire que c'est un mauvais Dieu à toute la planète. Puis là, après, on se demande comment ça, on ne vit pas de réveil au Québec. Mais si les gens sont toujours malheureux et les chrétiens ne vivent pas de différence depuis qu'ils sont chrétiens, mais ce n'est pas attirant. Mais il y a une renommée Dieu. Et Dieu veut que les gens le connaissent comme étant le bon berger. Amen? Amen. Comment est-ce qu'on va arriver à faire ça, changer notre âme? Bien, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour se mettre en position pour que Dieu le fasse. Dans Romains 12, 2, ça dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La volonté de Dieu, en passant, c'est bon, agréable et parfait. Celui qui vient vous voler, vous égorger, vous détruire, c'est qui? Le diable. Il faut revenir à la parole de Dieu dans nos églises au Québec. Celui qui vient vous voler, qui vient vous égorger, vous détruire, ce n'est pas Dieu. Pendant longtemps, tout ce qui nous arrive dans le corps de Christ, « Ah, ben Dieu est en train de me sanctifier. » Dieu nous sanctifie par sa parole, la Bible dit. Dieu nous sanctifie par son esprit et ne nous sanctifie pas par le cancer. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Il y a plein de choses, quand je vais me défouler, je vais en parler. Le psaume 33, verset 4, ça dit « Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Si Dieu dit une chose dans la parole, c'est vrai. Ça vient de s'éteindre. Moi, quand je rencontre des chrétiens qui me disent « Ouais, la Bible dit ça, mais moi, je comprends ça de même. » Ou « Moi, mon opinion, mais on s'en foutu des opinions du monde. » Moi, ton opinion, ça vaut rien. L'opinion que moi, je crois, c'est l'opinion de Dieu. Je me souviens une fois, là, je faisais une émission de télé en Alberta. C'était une émission où les gens pouvaient appeler, poser des questions. Et c'était l'émission Insight, pour ceux qui la connaissent. Puis je faisais l'émission sur la guérison divine. Et j'étais estomaqué comment il y avait des croyants qui ne croyaient pas la parole de Dieu. On ose se dire des croyants, mais on ne croit pas Dieu, on ne croit pas sa parole. On se prend le privilège de dire, cette partie-là, je crois, ça, je ne crois pas ça. Vous savez, on n'a pas le privilège de dire « Dieu, je te crois de temps en temps ». Ce n'est pas le même. On croit tout le conseil de Dieu. Et quand on ne comprend pas quelque chose, savez-vous, on ne dit rien. Il y a des choses, des fois, on ne comprend pas pourquoi telle affaire arrive, mais au lieu de devenir les experts et de juger tout le monde, on dit « C'est ça, moi, je ne comprends pas, mais la parole de Dieu demeure vraie. Je comprends. Peut-être que ça va être juste au ciel que je vais comprendre. Peut-être juste au ciel que je vais avoir toute cette connaissance-là. Pour le moment, je vais choisir de marcher dans l'amour. Je vais choisir de marcher simplement en croyant que mon bon berger est bon. » Amen. Donc, la parole de l'Éternel est droite. Amen. Et Dieu veut restaurer nos âmes. Ça va venir avec le renouvellement de l'intelligence. Puis ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, le siècle présent est souvent dans nos églises même. Des fois, qu'est-ce que le monde croit? Des fois, les gens dans l'église ne sont pas renouvelés. Vous savez, moi, je rencontre des gens, des fois, ils vont parler comme le monde. Ils vont parler tout à fait comme le monde. Et c'est malheureux. On est supposé d'être différent, savez-vous? Les enfants de Dieu qui ont reçu une touche de Dieu, qui baignent dans la gloire de Dieu, devraient vivre différemment que le monde normal. Parce que, comme j'ai déjà dit, nous ne sommes pas normales. L'Église de la Victoire, on est tous des gens différents. On n'est pas normal, on ne sera jamais normal. Si on est normal, là, c'est parce que je ne serai plus là. Mais je vais rester là. Amen. On ne veut pas être normal. On veut être différent parce que nous sommes une autre espèce. Nous sommes des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Nous avons la nature de Dieu en dedans de nous. Nous avons un héritage que le monde n'a pas. Amen. Et on parle de l'héritage. La présence protectrice et directrice de Dieu. Vous savez, dans le verset 4, ça dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai super peur. » Non, je ne crains aucun mal. Combien de chrétiens vous connaissez, ils ont peur? « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, qui nous parle de protection, et ton bâton guide me rassure. » Quand on marche avec Jésus-Christ, le roi des rois, on n'a pas besoin d'avoir peur du diable. Savez-vous que Jésus est pas mal plus grand et sa puissance est pas mal plus grande que celle du diable? Donc, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, c'est merveilleux. On peut marcher tous les jours de notre vie chrétienne, choisissant de vivre par la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit, « Mon juste vivra par la foi. » C'est une façon qu'on vit à tous les jours. C'est pas de temps en temps. Quand des fois il fait noir, on a peur. Non, on vit toujours par la foi, parce qu'on marche avec Jésus. Et dans Job 3:25, on veut faire attention. On le dit souvent. Job le dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je doute, c'est ce qui m'atteint. » Quand on marche dans le doute, quand on marche dans la crainte, ça ouvre une porte légale à l'ennemi de faire des choses dans nos vies. On ne veut pas ouvrir des portes à l'ennemi. On veut marcher toujours collé à côté de Jésus, comme dans le psaume 91 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut marche protégé. » Amen. Ah, oh, mais ça, c'est de la poésie. Non, ce n'est pas de la poésie, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens, moi j'ai lu des commentaires, ça disait « On ne peut pas croire ça, c'est de la poésie. » Non. C'est la parole de Dieu. Alors, ici, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voyez ici, on voit que Dieu nous donne, il nous guide, il nous dirige aussi. Savez-vous ça? Dieu est là, le bon berger est là pour vous diriger dans votre vie. Et on serait, selon la parole de Dieu, je vais vous donner un mot biblique, stupide ou insensé, d'essayer de faire notre vie chrétienne à notre façon. On peut l'essayer, mais ça ne marchera pas. Ça ne sera pas béni. Vous savez comment Dieu veut nous guider? Il y a une façon très claire. On va regarder ensemble. Le psaume 119, verset 5. OK, comment Dieu va nous guider? Premièrement, par sa parole. C'est simple. Il y a des gens qui disent, « Ah, oh, ben Dieu, moi, lui, il me dirige de telle façon. » Premièrement, le premier critère pour être dirigé de Dieu, le premier critère, c'est la parole. Le psaume 119, verset 105, ça dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Croyez-vous ça ce matin? Que la parole de Dieu est notre autorité. Amen. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, ça dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc, on voit la parole de Dieu. C'est simple, on ne va pas s'étendre longtemps. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous voulez être béni dans votre vie et vous voulez être guidé par Dieu, premièrement, mettez votre vie en règle selon la parole. Vous savez, il y avait une chrétienne qui priait, « Oh, c'est un fait que mon divorce marche bien. » Ça, là, oubliez ça, une prière de même. Non, Seigneur, change mon cœur. Change le cœur de mon mari. Change-nous. Restaure-nous, Seigneur. C'est pas, Seigneur, fait qu'on se divorce bien. Non, il faut revenir à la parole. Amen. La première chose, c'est la parole de Dieu. Donc, la deuxième, on veut être guidé également par son esprit. Savez-vous que Dieu est vivant et par son esprit, nous pouvons être guidés et avoir une paix dans nos cœurs? Dans Romains 8, 14, il est écrit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et dans Jean 10, 27, ça dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ça, c'est une chose. La nuit passée, j'ai eu un rêve assez particulier. Puis je vais vous le partager un petit peu. Mais vous savez, Dieu veut nous conduire par son esprit. Il veut nous emmener à un autre niveau dans notre vie chrétienne. Même dans notre niveau d'intimité avec lui. Ça, c'est le cœur de Dieu. Oui, on soit guidé par la parole, qu'on soit guidé par son esprit. Et cette nuit, quand je rêvais, qu'est-ce que j'ai vu? J'étais comme dans un sous-sol et moi, j'ai décidé de monter le sous-sol. Et comme je montais, il y avait plein d'étages dans le sous-sol. Et je voyais qu'il y avait des gens qui priaient. Mais c'était dans le terre à terre. Littéralement, c'était des prières terre à terre. Puis là, je montais, puis il y avait deux, trois personnes qui priaient, une personne tout seul. Il n'y avait pas vraiment d'unité, c'était vraiment terre à terre. Et là, moi, je suis monté dehors. Et quand je suis monté dehors, là, j'étais prêt à m'en aller pour vivre d'autres choses avec Dieu. Et comme j'étais dehors, en dehors du sous-sol, j'étais rendu dehors, il y avait le propriétaire de l'édifice souterrain et quelqu'un qui avait loué le terrain pour la prière disait, ben, tu ne peux pas t'en aller d'ici. Tu peux pas. On a verrouillé toutes les autos. Personne ne peut partir. C'est comme ça que ça marche. Et dans mon rêve, moi, j'ai dit, ben, moi, je ne suis pas limité par des autos. Moi, ce n'est pas comme ça que je marche. Ce n'est pas comme ça que je suis conduit. Et là, je me suis réveillé. Savez-vous qu'est-ce que Dieu m'a montré ce matin par ce rêve-là? C'est que pendant longtemps, là, on a prié, on était peut-être même caché comme souterrain. On prie, c'est terre à terre, mais littéralement terre à terre. Là. Il n'y a pas de puissance là-dedans. Mais Dieu est en train de dire où on a besoin de s'en aller. Là. On n'a pas besoin d'auto, on a besoin d'être guidé par son esprit et de quitter le terre à terre et de pas être préoccupé de notre réputation, la façon qu'on va prier. Vous savez, vous faites prier longtemps et dire... Je vais prier d'une façon respectueuse pour ne pas déranger mon voisin. Mais quand on a une touche de Dieu en dedans de nous, là, on va prier, là, puis Seigneur, touche-moi, touche mon enfant, ça va sortir du cœur. Il va y avoir quoi qui va brasser là, quelque part, savez-vous? Mais il faut être prêt à ne pas être lié. Puis c'est ça qu'est-ce que j'avais entendu. Le monsieur a dit, j'ai verrouillé toutes les autos. Il n'y a personne qui peut quitter cette place. Mais savez-vous, on a l'autorité en Christ. On n'est pas pris par... aucun démon qui va nous empêcher de prier notre Dieu et de briser le statu quo du terre à terre. Dieu veut nous guider par son esprit. Amen. Puis c'est ça que je veux, moi. Puis vous savez, des fois, moi, je sais que j'ai une amie, Faithine Crisco. Vous savez, on l'avait eue au cégep, elle est venue prier pour le groupe qui était là. Puis il y avait des gens qui ont critiqué par la suite. Ils ont dit, quand elle a prié, là, elle tremble. Elle fait ça. Je vais vous dire, puis là, ça a fait parler du monde. Puis moi, je n'avais même pas remarqué qu'elle tremblait, je peux vous dire. Je n'avais même pas remarqué ça. Puis c'est pas que je recherche des tremblements d'imitation puis de la chair, OK? Commencez pas à trembler puis pensez que vous êtes plus spirituel. On ne recherche pas ça. Mais quand Dieu touche quelqu'un puis elle se met à prier et à prophétiser puis à tremble, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui la critiquent. Mais savez-vous, Faithine, elle se fait appeler par le premier ministre du Canada pour avoir des rencontres. Elle s'en va en Israël, les premiers ministres, les gens comme ça, l'appellent pour la rencontrer. Pourquoi? Ben, parce que la main de Dieu est sur elle. Mais les gens qui l'ont critiqué, eux, est-ce que Harper les appelle? Moi, là, je pense, au Québec, il faut commencer à changer notre vocabulaire. Et quand on juge les gens qu'on ne comprend pas, le monde de l'esprit, c'est le monde de l'esprit. Puis si on prie puis on tremble, mais on est en train de briser des choses dans le monde spirituel, ben, moi, ça m'intéresse plus qu'une belle petite prière formelle que tout le monde trouve « Ah, c'est-tu beau? » Moi, je veux quelque chose qui va toucher le ciel. Amen? Amen. Mais c'est sûr que des fois, on va déranger les gens. Mais Dieu veut nous guider bon, par sa parole, par son esprit. Et une chose qu'on doit vraiment, vraiment discuter ce matin, puis je vais essayer de tout rentrer dans mon temps, c'est que souvent, on rencontre des gens qui veulent connaître la volonté de Dieu pour leur vie, mais ils ne savent pas comment Dieu guide. Ils disent, mais comment est-ce que Dieu nous parle vraiment? Comment est-ce qu'on peut savoir? Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire, ben, Seigneur, si tu veux que je fasse telle affaire, fais que le vent souffle de ce côté-là. Seigneur, si tu ne veux pas que je fasse quelque chose, fais que le vent souffle de ce côté-là. Et finalement, on est guidé par des choses extérieures. OK? Donc, les toisons. Est-ce que Dieu veut nous guider comme ça? Bien, il y a un principe biblique, OK? Je vais vous inviter à tourner dans Juges chapitre 6, versets 36 à 38. Ici, on va voir comment le bon berger veut nous guider dans nos vies. C'est très important de connaître comment Dieu veut nous guider, parce que si on n'est pas convaincu que c'est Dieu qui nous guide, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on marche dans sa volonté et dans son plan? Dieu va nous montrer clairement. On va le voir ensemble. Donc, dans Juges chapitre 6, Juges chapitre 6, versets 36 à 38. Ici, on parle de Gédéon. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Dispensation, dans l'Ancienne Alliance. Ça dit, « Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau pleine une coupe. Ici, j'ai lu dans Louis II. Donc, ici, on voit Gédéon qui met des choses devant Dieu. C'est un « si tu agis d'une telle façon, là, je vais connaître ta direction ». Mais ça, c'est une chose qu'on doit vraiment faire attention dans notre dispensation. Savez-vous pourquoi? Parce que Gédéon, même si c'était un homme de Dieu, n'avait pas le Saint-Esprit qui habitait en lui. Gédéon n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Et nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, on a le Saint-Esprit en nous, donc on ne devrait plus, en principe, être guidés comme ça. Et il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui sont guidés constamment par des choses extérieures. Et il faut faire attention parce que les choses extérieures sont dans le monde où même l'ennemi peut s'infiltrer là-dedans. Vous savez, dans Éphésiens 2:2, ça dit le prince de la puissance de l'air. Bien, ça nous parle de Satan, le prince de la puissance de l'air. Et dans 2 Corinthiens 4:4, le dieu de ce siècle. On sait que l'ennemi est là et il peut fabriquer des événements pour nous guider, savez-vous ça? Il peut en fabriquer des événements. Alors, si on est toujours guidé par, « Seigneur, si telle personne est à l'église dimanche matin, ça va me dire qu'il faut que je marie tel monsieur. » Savez-vous? Ou, « Seigneur, si tu veux que je marie elle, fais qu'elle porte un gilet rose. » Et là, ah, bingo, elle porte un gilet rose, mais c'était pas elle, pantoute, que Dieu voulait que vous mariez. Mais savez-vous, on peut être guidé de même toute notre vie chrétienne. Et souvent, j'entends parler des chrétiens, puis c'est de même. Mais ça, c'était très bon si vous étiez dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, on a quelque chose d'encore mieux, on a son esprit. Et non seulement juste son esprit, mais on a notre esprit régénéré. Ça, c'est la prochaine chose que je vais vous aider à comprendre ici. Notre esprit régénéré. Dans Proverbes 20 et 27, ça c'est un texte bien important, vous pouvez l'écrire, je vais vous la lire dans la Bible du Semeur. Ça dit « L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. » Et nous savons que nous, étant dans la Nouvelle Alliance, cette âme-là a été régénérée par le Saint-Esprit. On a parlé il y a quelques semaines de la régénération, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais nous savons que l'esprit de l'homme, votre esprit, ok, est une lampe de l'Éternel. L'Esprit de Dieu qui habite votre esprit va vous guider, va vous donner une conviction. Vous savez, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, vous dirige, vous-même vous appelle à aller dans une telle école ou marier une telle personne, votre esprit est relié avec l'Esprit de Dieu et vous allez avoir un sentiment de paix ou de malaise. À quelque part, il y a quelque chose qui va clocher si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, votre esprit va le savoir également. Et on est rendu là, notre génération doit apprendre à vraiment être sensible à l'Esprit de Dieu et à être connecté à nouveau à notre esprit. Savez-vous, souvent, on est complètement intellectuel et on se gouverne par notre jugeote, par nos pensées humaines. Puis c'est pas ça que Dieu veut. Parce que des fois, là, ça peut être bizarre ou ça peut être pas raisonnable, puis c'est vraiment la volonté de Dieu. Il ne faut pas être guidé juste par l'intellectuel. Non plus, il ne faut pas mettre notre tête de côté et faire semblant qu'on est toujours, toujours guidé par la voix audible de Dieu constamment 24 heures sur 24. Ce n'est pas la réalité. Mais il faut être reconnecté avec notre esprit. Et voyez-vous pourquoi dans 1 Jean 2:27, ça dit « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » Donc, nous avons déjà l'onction. et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'enseignement le dimanche matin, on n'a pas besoin des cinq ministères dans Éphésiens 4, 11, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin qu'on vous enseigne ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Dans le sens, on va avoir dans notre cœur la conviction, qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, donc le discernement, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés, donc en parlant de l'onction. Donc, l'onction de Dieu que vous avez en vous va vous donner un déclic quand c'est la volonté de Dieu. Et quand ça ne l'est pas, ça va vous mettre un genre de malaise. Moi, je me souviens, il y a quelques temps, j'étais pour visiter une maison qu'on pensait acheter. Puis en dedans, là, je me sentais tout croche. Je me sentais qu'il y a de quoi là, qui cloche dans mon cœur. Et en arrivant là-bas, il y avait la dame, c'était un semi-détaché, et la dame qui habitait de l'autre côté de la maison est sortie, puis elle dit « Achetez pas l'autre maison, c'est terrible, achetez pas ici, l'eau ici va tout rouiller, vos vêtements vont rouiller même votre vaisselle », puis elle est sortie avec sa vaisselle tout rouillée. Mais mon esprit avait connecté avec l'esprit de Dieu, et c'était la réalité, c'était la vérité. Mais voyez, l'esprit de l'homme, il faut revenir à ça. Et dans Ésaïe 55, verset 12, ça dit « Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Avant de faire quelque chose, avez-vous la paix de Dieu? Ou vous le faites, puis vous n'êtes même pas conscient, vous ne portez même pas attention si Dieu est là-dedans. Comme il y en a qui vont dans une certaine église parce que leurs parents étaient là. Ben moi, mes parents, mon grand-père était là, mon père était là, donc moi je suis là. Mais ont-tu cherché la face de Dieu? C'est-tu mon appel? C'est-tu mon ADN? Est-ce que moi je suis appelé à faire ça ou c'est... Je m'en vais là parce que, X raison, il faut être connecté avec Dieu. Amen. Et là, l'autre affaire, le danger de ce que je viens de vous dire. Savez-vous le danger? Après, c'est qu'est-ce qu'on appelle des chrétiens Saint-Esprit. Ce n'est pas péjoratif, je ne veux pas moquer, mais c'est des chrétiens qui deviennent autosuffisants. Tout d'un coup, ils disent, ben, c'est moi et l'Esprit. Puis moi, je suis toujours guidé par l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas besoin de personne. Ils ne disent pas. Ils ne disent pas comme ça, mais ils vivent comme si... On marche comme ça. Donc ça, là, c'est un problème. Vous savez, Dieu nous donne une famille spirituelle. Et Dieu nous entoure avec des gens pour nous guider dans notre marche chrétienne. Et il n'y a personne qui est si proche du Saint-Esprit qui n'a pas besoin de ses frères et ses sœurs pour intervenir dans leur vie. Ça, c'est le danger, je vous dis. On peut, vous savez, n'importe quoi, on peut déborder et être déséquilibré. On peut être un chrétien juste de la parole. Et juste... comme ça, et on n'est jamais à l'écoute voir si Dieu veut nous diriger vers un autre verset, par exemple. Et on peut être juste un chrétien de l'esprit, on n'étudie jamais la parole, on ne sait rien que c'est pas la parole, finalement on fait plein d'affaires, puis on pense que c'est l'esprit. Ça, c'est une autre affaire qui n'est pas bonne. Ou on met toujours des toisons partout. Ou on peut tout intégrer, puis dire, moi je vais être un homme de la parole, je vais être un homme sensible à l'esprit de Dieu, et en même temps, vu que j'ai mon esprit régénéré, je veux être conscient que Dieu va me parler, me donner la paix ou l'absence de la paix quand c'est sa volonté. Puis l'autre affaire, Dieu me met dans une famille spirituelle qui, les gens autour de moi vont être capables de me donner des bons conseils. Ils vont pouvoir me dire, « Sais-tu, Fernande, ma mère, tu t'en allais faire du bungee, mais nous autres, dans notre cœur, ça nous dit, « Fais-les pas. » OK? Dans notre cœur, non, ça ne fit pas, ça ne passe pas. Non, mais voyez-vous, ensemble, là, en famille, on est là pour s'aider. Ma mère ne ferait jamais du bungee en passant. Je vais vous dire, dans Proverbes 15, verset 22, ça dit, « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réunissent quand il y a de nombreux conseillers. » Vous savez, là, c'est bien d'avoir des conseillers dans nos vies, des gens qui, eux aussi, ont l'Esprit de Dieu. Savez-vous? Vous n'êtes pas la seule personne à avoir l'Esprit de Dieu. Si vous êtes dans une famille chrétienne, bien, tout le monde, on est supposé avoir l'Esprit. Puis si tout le monde dit... Tu fais fausse route, mon frère, ma sœur, bien, porte attention. Soyez humble et dites, bien, peut-être j'ai mal discerné la voix de Dieu. Ça se peut-tu? Ça se peut-tu de mal discerner? Oui, ça se peut. Tout le monde peut se tromper. Et dans 1 Corinthiens 10, 17, ça dit, puisqu'il y a un seul pain, en parlant de Jésus, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain en Jésus. Donc, nous faisons tous partie de la même pâte de pain. Donc, ensemble, dans l'amour de Dieu, quand on a l'intérêt de notre frère ou notre sœur, puis quand on dit, si tu dis que l'Esprit te dit telle affaire, Mais nous, là, on pense que c'est peut-être plus ta chair. On le dit avec amour, bien sûr, pour gagner le frère. Là. Mais on dit, sais-tu, moi, je pense que peut-être c'est pas le temps de Dieu. Peu importe comment Dieu nous dirige, il faut être attentif. Et je vais vous dire, même les plus grands prophètes, là, moi, j'ai eu la bénédiction de côtoyer des grands hommes de Dieu. Et même, j'ai eu des temps de prière avec des gens qui sont capables de prophétiser des choses exactes pour plein de monde. Puis là, après, on va se retrouver en privé, puis ils vont dire, Joël, toi, qu'est-ce que tu penses? Devrais-tu faire ça ou ça? Puis là, le monde normal dirait, écoute, là, il prophétise à 10 000 personnes. Comment ça, il demande à Joël Spink son avis sur des affaires? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a personne d'autosuffisant. On peut prophétiser, Dieu peut nous donner des révélations pour des gens, mais quand c'est pour notre vie personnelle, Dieu ne nous le dit pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit dépendant sur le corps. Sinon, là, on pourrait être indépendant et dire, moi, je suis prophète, je sais tout, Dieu me parle toujours. Mais c'est pas ça. C'est que Dieu là, veut qu'on travaille en esprit et Dieu choisit de ne pas nous divulguer des choses personnelles pour nous, pour qu'on soit dépendant sur d'autres personnes pour nous aider. Ça, c'est merveilleux. Ça fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment, même, je peux vous dire, Fighting, là, on a eu des temps de prière, tout notre groupe ensemble, vulnérable, qui va partager des choses. Puis là, elle nous demande notre conseil. Mais pourquoi? Bien, justement, parce qu'elle sait qu'en elle-même, là, elle a besoin du corps de Christ. On est là pour s'aider, s'entraider. Amen. Et une autre chose, il faut qu'on fasse attention. Des gens qui vont avoir une révélation unique. Puis c'est juste eux autres qui l'ont l'affaire. Avez-vous déjà rencontré des gens de même? Eux autres, ils ont leur révélation. Puis tout le monde, là, on n'est pas rendu là encore. Je ne sais pas, avez-vous déjà rencontré des gens de même? Bien. Dans 2 Pierre 1, 20, ça dit, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, ou dans une autre version, ça disait, une opinion unique. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, ce n'est pas juste une révélation ou une parole unique juste à une personne, puis tout le restant de la planète, tout le monde sont ignorants. Non, parce que le Saint-Esprit qui vous parle, il va parler à d'autres personnes aussi. Et s'il vous parle juste à vous, c'est une révélation, puis il n'y a personne d'autre sur la planète qui l'a entendu, c'est probablement pas la voix de Dieu. C'est probablement un mensonge. Parce que savez-vous, l'Esprit parle à tout le monde. On fait partie d'un corps. Donc, 1 Pierre 5,5, ça dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, donc entre nous, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Donc, si on veut être dans la grâce, la faveur de Dieu, le dynamisme, le ministère prophétique ou le ministère de puissance, on veut vivre la grâce de Dieu ensemble, humilions-nous dans nos rapports mutuels. Pensons pas qu'on connaît toutes choses. Puis aujourd'hui, là, je dis pas ça parce que je pense que vous êtes de même. On prévient, on veut toujours prévoir les coups, nous autres. On est en train de guérir les choses avant qu'elles arrivent parce que vous êtes tous corrects, vous autres. On vous aime tous comme vous êtes, hein? Non, mais c'est vrai. Non, mais qu'est-ce qu'on veut faire, là? On veut toujours demeurer dans l'humilité. Puis savez-vous, tout le monde peut quitter ce chemin-là avec le bon berger. Puis des fois, on marche avec le bon berger, puis il nous parle, puis là, tout d'un coup, on dit, « Ouais, j'ai une bonne idée, hein? » Mais finalement, c'était l'idée du bon berger. On veut toujours remettre la gloire à notre berger qui nous conduit. Et c'est la façon que le berger va nous conduire aujourd'hui. Vous ne le verrez pas arriver avec une petite brebis, puis avec sa houlette, tout ça, là. Quand vous marchez avec Jésus, ça va être par sa parole, par son esprit, par votre esprit, et certainement par votre famille spirituelle. Une autre chose qu'on veut regarder, notre forfait divin intouchable. Bon, ça dit au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Vous savez, moi, quand j'étais jeune, puis je lisais ce texte-là, je me posais la question, « Mais pourquoi tu choisis une place de même, Jésus, pour me préparer une table en face de mes adversaires? Ça ne serait pas mieux dans une autre place, me semble. » Mais savez-vous ce que ça veut dire? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que même s'il y a des adversaires qui sont là, tu dresses une table devant moi et même mes adversaires ne peuvent pas toucher ce que tu me donnes. Qu'est-ce que Dieu me donne sur la table de banquet? C'est merveilleux. Le bon berger a préparé quelque chose de merveilleux pour moi et même mes adversaires ne peuvent pas venir saisir la nourriture que Dieu veut me donner. Parce que dans 1 Jean 5, 18, ça dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je suis intouchable. » parce que je marche avec le berger qui me protège. Puis quand il prépare la table de banquet, comme le psaume 103, il pardonne toutes mes iniquités, il guérit toutes mes maladies, il rassasie ma vie de bien, de longs jours et tout ça. Il délivre ma vie du précipice, si on veut. Tout ça, là, c'est merveilleux qu'est-ce que le Seigneur fait pour nous. Et le diable ne peut pas voler votre héritage. Savez-vous ça? Il ne peut pas le voler. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Si vous gardez dans l'ignorance, comme ça, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous appartient. Si vous êtes ignorant, vous passez à côté plein de bénédictions. Mais quand vous connaissez ce que Dieu veut pour vous, c'est merveilleux. Là, vous recevez votre bénédiction. Et dans Ésaïe 55, ça dit exactement qu'est-ce qu'on a sur cette table. Ésaïe 55, verset 1, ça dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. » Voyez-vous, écoutez-moi, vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Puis ça disait, tantôt on a lu 1 Jean 5, 18, celui qui ne pêche pas se garde lui-même. Et aussi on veut garder les gens autour de nous. Et quand on marche avec l'Esprit de Dieu, le Seigneur va nous prévenir des précipices. Le berger va dire, « Marche pas trop proche ici, Joël, tu vas tomber. Garde-toi plus loin. » Et pareillement, on peut être à l'écoute et dire, « Seigneur, est-ce que les choses que j'écoute à la télévision, est-ce que c'est bien pour moi? Esprit de Dieu, montre-moi, c'est-tu bien? La façon que je vais m'habiller, est-ce que ça va te plaire? Est-ce que je suis assez modeste, Seigneur? Est-ce que je vais te plaire? Est-ce que je vais être une pierre d'achoppement pour quelqu'un? » Et là, peut-être le Saint-Esprit va vous dire, sais-tu, peut-être tu pourrais mieux te recouvrir, peut-être un petit peu moins de peau. Vous savez, moi, je suis allé acheter un téléphone chez, on ne dira pas où, mais je suis allé acheter un téléphone avec mon épouse et j'en étais gêné. J'avais envie de dire, parle à ma femme, là. C'était vraiment, c'était pas approprié pour une jeune fille d'être vêtue comme ça. Puis mes petites filles, je leur ai dit, vous ne serez jamais habillée de même. Ça, je passe une note, là. Mais quand on est des enfants de Dieu, on devrait être différent, savez-vous ça? On ne devrait pas s'habiller comme le monde normal, pas qu'on doit être anormal non plus, là. On peut être à mode. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, on devrait avoir des standards du berger, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on mange, savez-vous? Peut-être manger 3 ou 5 assiettes, peut-être c'est un petit peu trop. On peut être à l'écoute de Dieu et dire, « Seigneur, j'ai mangé 3 assiettes, c'est-tu assez? » Puis le Seigneur va dire, « C'était même trop, mon enfant. » Mais vous savez, non, mais on doit être à l'écoute pour tout, toujours à l'écoute. Mais il dresse une table devant nous. On a juste à dire, « Seigneur, OK, moi, je suis là, je veux être attentif à ton esprit et je veux me garder moi-même, je veux me protéger, mais la façon dont on va être protégé, c'est en marchant avec le berger. » Et mon dernier point en terminant, Dieu nous donne l'accès illimité à sa bonté. Verset 5, ça disait, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce veut dire une faveur non méritée, m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alléluia, c'est bon ça. Jusqu'à la fin de mes jours. Savez-vous qu'est-ce qui est intéressant ici aussi? Ça dit, en parlant, tu oins d'huile ma tête. Mais pourquoi qu'il parle d'huile? Vous savez, les petites brebis, là, quand ils se promenaient, ils mangeaient à terre, puis ils se frottaient la tête, puis souvent, ils venaient tous comme échauffés, si on veut. Ils venaient tous avec la tête, avec plein de blessures. Et le bon berger arrivait, puis mettait de l'huile pour guérir la blessure de la petite brebis. C'est la même chose avec nous. Il est en train de nous dire ici, là, sur tes blessures, moi, je veux mettre de l'huile de guérison sur toi. Ça nous parle d'une guérison. C'est l'amour du berger pour ses enfants, pour ses brebis. Amen. Il a tout payé. Quand on pense à ça, le forfait divin, là, ça couvre tout. Puis en passant, quand on lit la parole de Dieu, il n'y a pas des petites lettres en bas qui disent, après 65 ans, il faut aller faire un test médical, vous nous êtes non admissible. Il n'y a pas d'affaire de main. Le forfait de Dieu, c'est bon pour tout le monde. Ça ne coûte rien. On a juste à dire, oui, je reçois. Dans Ésaïe 53, ça dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans Romains 2, 4, ça dit « La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. » C'est la bonté de Dieu qui veut faire en sorte qu'on décide de changer notre voie, de voir les choses différemment, selon la vision de Dieu. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous et je m'adresse également aux gens par l'Internet, Enseigne-moi TV, par tous les gens, peu importe où vous vous retrouvez, peut-être en auto, en écoutant la radio. La bonté de Dieu aujourd'hui vous pousse à la repentance. Vous savez, le Seigneur qu'on suit est un bon berger. Il veut nous guider vers les bons chemins, les endroits où on va être béni, on va être restauré, où on va avoir tous nos besoins rencontrés. Mais il faut faire la rencontre premièrement avec ce berger-là. Il faut savoir c'est qui. Et aujourd'hui, pendant que tout le monde penche leur tête et pendant qu'on ferme les yeux, je veux nous demander, aujourd'hui, si vous entendez la voix du bon berger, n'endurcissez pas vos cœurs, mais laissez l'Esprit de Dieu travailler dans vos cœurs. Et la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ça veut dire aujourd'hui, c'est la journée de votre délivrance. Et si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, c'est le jour parfait, merveilleux pour vous donner à lui. Et dire, Seigneur, moi, je suis une brebis de plus dans ta bergerie. Je veux te donner ma vie. Fais quelque chose avec. Prends-moi dans tes bras et fais quelque chose avec. Aujourd'hui, acceptez-vous son amour. Acceptez-vous qu'il vous reçoive. La parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 9, 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pendant que toutes les têtes sont penchées et les yeux fermés, j'aimerais demander s'il y a quelqu'un ici qui aimerait donner sa vie à Jésus-Christ, de simplement lever la main. Simplement lever la main et on va prier ensemble. Amen. C'est merveilleux. Savez-vous, la parole de Dieu nous dit que quand une seule personne donne sa vie à Dieu, il y a un party au ciel. Alors on va prier aujourd'hui, on va encourager ceux qui donnent leur vie à Jésus en ce moment. Je vais vous demander de répéter après moi. Seigneur Dieu, je veux te donner ma vie. Je reconnais que Jésus est sauveur et je veux faire de lui mon Seigneur, mon maître, mon berger. Je te demande de me laver de tous mes péchés, de faire de moi une nouvelle personne. Merci Seigneur de faire de moi ton enfant. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour les nouvelles personnes qui ont donné leur vie à toi, qui ont décidé de céder leur vie au bon berger. Seigneur Dieu, on prie que ton onction puisse les recouvrir en ce moment, que tu puisses les envahir, Seigneur, de ta grâce, de ton amour, de ta paix. Je te prie, Seigneur, que toutes les choses du passé, Seigneur, qu'ils puissent les oublier, parce que toi, Seigneur, te dis dans ta parole que tu oubliais nos péchés, tu les éloignais de nous. Seigneur Dieu, je prie qu'aujourd'hui, ils puissent quitter cette place avec le sentiment, Seigneur, que tu les aimes profondément et que tu as une grande vie, une destinée réservée pour eux. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est merveilleux d'avoir des nouvelles personnes à entrer dans le royaume de Dieu. Et vous savez, peut-être que vous êtes un chrétien depuis longue date et peut-être que ça vous a juste renouvelé avec le fait que Dieu est bon et que Dieu veut vous guider. Mais il y a des choses qu'on doit faire pour être guidé par son esprit. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.